les inégalités ont explosé et le populisme que nous voyons aujourd'hui se développer dans tous les pays européens et je trouve d'une certaine manière quand même aussi aux États-Unis est pour moi le fruit de cette croissance des inégalités liée à une mauvaise gestion de la sortie de crise.
C'est l'ancien patron du FMI qui parle, Dominique Strauss-Kahn. Le 15 septembre 2008, le symbole, la faillite de la banque Lehman Brothers. Ce n'est bien sûr pas seulement un choc pour le système financier, c'est un coup porté aux démocraties. Ces salariés licenciés, ces familles privées de maisons, ces pays qui font exploser leurs dettes pour sauver les banques. Croissance faible, chômage, déséquilibre de nos modèles sociaux. 10 ans plus tard, les économies, elles sont reparties, mais les sociétés restent blessées. Comme une exaspération face à l'impunité, une lassitude devant les inégalités, une révolte contre les remèdes imposés. Le monde de la finance a-t-il assez entendu les victimes? Les dirigeants politiques sont-ils prêts aujourd'hui à coopérer pour monter des garde-fous encore plus haut? Eh bien non. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, les politiques sont divisées. Et pas seulement, mais aussi à cause de la crise, le populisme a infusé.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
On n'arrête pas l'écho, c'est jusqu'à 10h. Bienvenue, cette émission est réalisée par Coy Nguyen. Maud Benakcha est attachée de production et ce matin, c'est Jérémy Guillon qui nous accompagne à la technique. Ça ne vous a pas échappé, nous sommes donc le 15 septembre 2018, il y a 10 ans exactement, le début de ce que les économistes appellent la grande récession dont nous, Européens, avons eu bien du mal à sortir. Émission spéciale ce samedi. Aujourd'hui, devons-nous encore avoir peur de la finance? Cette question, je vais la poser aux débatteurs qui sont là. Bonjour Emmanuel Lechypre de BFM Business.
Bonjour à tous.
Bonjour Christian Chavagneux d'Alternatives Économiques.
Bonjour à tous.
Christian, spécialiste S-Crise, vous avez écrit en 2011 une brève histoire des crises financières, des tulipes aux subprimes. Est-ce que vous allez devoir ajouter un nouveau chapitre bientôt? C'est ça un peu qui nous fait peur. Hein, je vous poserai la question tout à l'heure, enfin ou presque tout de suite. Je suis certaine que vous avez aussi en mémoire l'affaire Dexia, des emprunts contractés par des communes et qui, avec la crise, sont devenus toxiques. 10 ans plus tard, est-ce qu'on sait qui a payé la facture? Vous entendrez le reportage d'Hélène Philly. Et l'invité du MagEco, c'était un banquier en 2008. Aujourd'hui, il surveille les banques. Il surveille aussi la stabilité du système. François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, sera avec nous vers 9h45. Sandrine Foulon, bonjour.
Bonjour Alexandra.
Sandrine, vous, on va vous retrouver pour Ma vie au boulot juste avant 10h. C'est Alice qui vous a écrit?
Oui, Alice n'a pas vraiment digéré la promotion d'un collègue. Faut-il être brillant ou au contraire incompétent pour réussir? Je vous laisse deviner.
Il y en a certains qui se posent la question.
La jalouse.
Ah oui, mais il y en a certains qui se posent ce genre de questions tout bas quand même. Hein, bon allez, à tout à l'heure. Tout de suite, retour sur la faillite de Lehman Brothers. 10 ans plus tard, qu'avons-nous fait?
« 15 septembre 2008.
C'est un séisme.
Un véritable séisme financier.
Coup de tonnerre dans le monde économique.
Dont l'onde de choc est difficilement mesurable.
L'annonce de la mise en faillite.
L'annonce de la quasi-faillite de Lehman Brothers.
De Lehman Brothers.
Lehman Brothers.
Lehman Brothers.
C'est une énième conséquence de la crise des subprimes.
Crise des subprimes.
Une crise qui n'en finit plus.
Les bourses du monde entier ont ressenti les secousses.
Les bourses en chute libre.
Les marchés boursiers s'affolent. Quelles répercussions sur la finance mondiale?
15 septembre 2018.
Alors, est-ce qu'on en a tiré les leçons pour le secteur financier?
Jean Benardeau,
oui.
Directeur général de HSBC France.
C'est renforcer la solidité des bilans bancaires, mm-hmm. plus de capital, plus de liquidité. Mm-hmm. Mais aussi, et c'est encore plus important, il y a un mécanisme, en particulier en Europe, de résolution qui fait que si une banque a un problème, il n'y aura pas de contagion dans le monde entier qui bloquera l'ensemble des systèmes financiers.
Les gens en charge du système bancaire,
Frédéric Oudéa,
sont d'accord pour dire que les banques sont infiniment plus solides aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 10 ans.
Directeur général de la Société Générale.
Les business models ont complètement changé. Les matelas de sécurité, pour nous, Société Générale, on a entre 2 et 3 fois plus de fonds propres, ce matelas de sécurité, pour les mêmes risques qu'avant.
Les bases du système financier sont beaucoup plus solides.
Alexis Garati.
Je suggérerais que la nature du risque a changé, en fait.
Directeur des études économiques chez Euler Hermès.
En fait, on peut observer à l'heure actuelle une certaine euphorie au niveau des marchés financiers.
Et ça, ça peut être dangereux aussi.
Et ça, ça peut être dangereux parce que ce qu'on observe au niveau global, c'est une accumulation de risques. qui sont liés, je dirais, avant tout à la politique protectionniste de développée par les États-Unis, exactement.
Il faut rester très vigilant.
Jean-Claude Trichet.
On a des bulles financières qui se trouvent un peu partout en ce moment.
Ancien président de la Banque Centrale Européenne.
On peut voir un détonateur dans les pays émergents qui ont commencé à s'endetter eux-mêmes assez considérablement après la crise.
Emmanuel Lechypre, avant de parler d'aujourd'hui, des risques, des dangers, de ce que vous voyez venir, de ces bulles dont on nous parle, moi je voudrais qu'on se remette les idées au clair sur 2007-2008. Tout est parti des États-Unis où les crédits immobiliers s'effondrent.
Oui, c'est vrai que cette crise, elle est entrée dans l'histoire comme la crise dite des subprimes. Alors les subprimes, c'est quoi? C'est des crédits immobiliers un peu particuliers. Vous ne payez pas beaucoup d'intérêts les deux premières années et vous en payez beaucoup après. Et donc, qu'est-ce que faisaient les ménages américains? Comme les prix de l'immobilier montaient beaucoup aux États-Unis, bah ils achetaient massivement avec ce système, ils revendaient au bout de 2 ans, ils faisaient une belle plus-value sur la valeur de leur maison et en fait, ils avaient remboursé assez peu de crédits. Le problème, c'est que tout ça s'arrête de fonctionner le jour où les prix de l'immobilier n'augmentent plus, d'où beaucoup de faillites personnelles. Et là, on se retrouve avec ces problèmes de crédit immobilier. Mais en soi, ce problème de crédit immobilier, il est tout petit. C'est 350 milliards de dollars à peu près. Songez que c'est l'équivalent des fluctuations une journée à la bourse de New York.
Alors comment ça devient, comment ça perturbe tout le système?
Tout ça pour dire que ça n'est pas le baril de poudre qui a fait sauter la planète financière. C'est l'étincelle qui a mis le feu au vrai baril de poudre qui était ce qu'on appelait la titrisation. La titrisation, c'était une idée absolument géniale. C'était de dire, on prend des produits financiers de risques variés, on les découpe en tout petits morceaux et avec ça, on refait des nouveaux produits financiers, ce qui fait qu'en fait, on dilue tellement le risque dans ces nouveaux produits financiers que le risque disparaît. Et ce qu'on n'avait pas compris, c'est que malheureusement, le risque n'avait pas disparu, c'est qu'il était au contraire partout. Prenez un exemple simple, vous prenez 1 kilo de morceaux de viande de bœuf. En gros morceaux.
Vous allez réussir à parler de nourriture.
Oui, je vais réussir. Oui, oui, vous n'êtes pas le dimanche matin avec François-Régis Gaudry, non. Vous prenez 1 kilo de viande de bœuf en gros morceaux. Si vous avez un morceau avarié, vous le retirez, les autres morceaux sont consommables. Si, avec ces 10 morceaux de viande, vous faites un steak haché, le morceau avarié, il contamine toute votre viande. Et donc, vous ne pouvez plus consommer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans tout le système financier, on s'est retrouvé avec des produits dont on ne savait pas s'ils étaient avariés ou pas. Et ça a bloqué tout le système financier à l'époque.
Donc, la créativité, l'innovation des financiers, la promesse de gain quand même pour des ménages qui comprennent pas grand-chose.
Et encore une fois, cette constante qu'on croit qu'on arrive à maîtriser le risque et que le risque a disparu.
Christian Chavagneux, est-ce que dans toutes ces crises financières, pas seulement celle de 2008, mais dans toutes celles que vous avez étudiées, il y a des points communs?
Oui, je crois. Oui, il y a vraiment toutes les grandes crises financières de l'histoire passent toutes par les mêmes mécanismes.
Par exemple 29.
Par exemple la fameuse crise des tulipes dans la Hollande. Par exemple, John Law, cet Écossais qui était devenu ministre des Finances en France, la crise de 29, etc. Les mécanismes de base, c'est quoi? Vous venez de le dire, Alexandra, il y a des petits génies qui inventent un nouveau produit financier pour essayer de se faire de l'argent. Là, c'était une titrisation un peu particulière fondée sur les prêts immobilier aux États-Unis. On sait très bien, pour la crise des subprimes, il y a eu à l'été 94, dans un hôtel en Floride, des gens de JP Morgan, la grande banque américaine, qui ont inventé tous ces produits toxiques avant de les diffuser, comme l'a dit Emmanuel, au reste de la planète. On sait exactement quand est-ce que
ça s'est passé. Et Bill Clinton avait trouvé ça génial à l'époque.
Alors justement, ça devient des produits qui deviennent toxiques dans l'ensemble de la planète si les régulateurs ne font rien. Parce que si les régulateurs veulent empêcher, ils le peuvent. Et il y a, comme l'a dit Emmanuel, une régulatrice qui travaillait pour Clinton, qui lui dit, Monsieur le Président, si vous laissez diffuser ces choses-là, ça va créer une panique mondiale. On est à la fin des années 90. Bien vu, hein. Malheureusement, Clinton, mal conseillé, va dire « Non, c'est des super produits, on les laisse se diffuser ». Qu'est-ce qui se passe après? Ça devient une crise mondiale que si vous avez beaucoup de crédit qui vient soutenir la spéculation sur ces produits, sur cette nouvelle façon de gagner de l'argent. Toutes les banques en font, toutes les banques font des crédits, les banques se font des crédits entre elles surtout, ce qui fait que dès qu'une banque va avoir des difficultés, toutes les autres vont être emmenées en cascade.
C'est ce qu'on appelle un risque systémique, c'est quand ça touche tout le système.
Un risque d'une banque devient le risque soit national, soit mondial. En plus, vous vous dites, mais attendez, les banquiers, ils sont pas fous. S'ils prennent plein de risques et qu'ils risquent de faire exploser la banque, il y a bien des gens qui maîtrisent chez eux les risques. Eh bien oui, il y a plein de gens qui maîtrisaient, qui avaient dit à UBS, qui avaient dit à JP Morgan, qui avaient dit à Citigroup, qui avaient dit à Lehman Brothers, attention, vous prenez trop de risques. Qu'est-ce qu'on a fait de ces gens-là? Au mieux, on les a mis dans un placard. Au pire, on les a mis à la porte. Ça, c'est un rapport du Sénat américain qui a montré ça. Plus, une dernière petite chose, c'est que comme il y a les financiers deviennent de plus en plus riches, deviennent de plus en plus puissants, ils ont du pouvoir politique et du pouvoir idéologique qui fait quoi? Qui fait qu'on dit, mais il y a besoin de moins en moins de régulation. Il y a besoin de moins en moins de règles. Il faut laisser les marchés faire. Et là, on entretient la spirale dérégulation, prise de risque. Et à la fin, c'est la bulle. Et elle explose.
Bon, alors ça, c'est la bulle pour 2007-2008. Les points communs avec les autres bulles, la question qu'on se pose ce
matin, Emmanuel Le Chypre. Sommes-nous à la veille, enfin voilà, d'une nouvelle grande crise? Certains nous disent, oh ben ça fait 9 ans de croissance pour les États-Unis. Il y a bien quelque chose qui va finir par péter quelque part.
Alors, oui, la question, c'est est-ce que nous sommes menacés de revivre ce qu'on pourrait appeler le Big One? Parce qu'il faut bien se rappeler que la crise de 2007-2008, ça n'est pas une crise financière comme les autres. Ça aurait pu devenir la crise de 1929. À l'origine, la déflagration, elle est aussi importante qu'en 1929. À ne pas confondre avec les autres crises plus traditionnelles qu'on subit. Et moi, aujourd'hui, dans le système financier mondial, je ne vois pas vraiment de risque que se reproduise un choc aussi terrible. On va revenir peut-être sur ce qui a été fait en matière de régulation. Alors, je sais qu'il y a énormément de gens qui s'inquiètent, par exemple, et c'est le principal argument notamment de Jean-Claude Trichet, qui était le président de la BCE au moment où la crise est arrivée, c'est le niveau d'endettement de par le monde. Mais ce niveau d'endettement, d'abord, dans les pays riches, d'où est partie la crise des subprimes. Il y a beaucoup d'endettement public, c'est vrai, mais il y a moins d'endettement privé. La situation financière des ménages américains, par exemple, elle est meilleure qu'en 2007. Alors oui, c'est dans les pays émergents aujourd'hui qu'il y a beaucoup de dettes. Et il y a un pays qui effectivement concentre toutes les inquiétudes, c'est la Chine, parce qu'effectivement, si vous prenez en 2007, la dette, c'est 150% du PIB, aujourd'hui c'est 250%. Mais quand est-ce que c'est dangereux, cette dette? C'est si la croissance ralentit, si l'épargne des Chinois était faible, s'il y avait des risques de hausse des taux d'intérêt, si les investissements des entreprises chinoises n'étaient pas efficaces. Or, il n'y a rien de tout ça, il y a de la croissance en Chine, c'est le plus gros matelas d'épargne du monde. Donc, moi, je ne crois pas que aujourd'hui nous sommes menacés par un risque énorme. En revanche, oui, on est confronté à des risques de vieilles crises à l'ancienne. On voit qu'il y a des pays qui replongent dans leur vieux démon. La Turquie, par exemple, qui fait de l'inflation, dévalue sa monnaie. L'Argentine, etc. Donc oui, il y a des foyers infectieux, mais pas un risque d'énormes crises mondiales.
Christian Chavagneux, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Et est-ce qu'il y a pas de grande crise à venir que vous voyez, des foyers infectieux, et puis cette histoire de dette quand même?
D'accord et pas d'accord avec Emmanuel. D'accord sur le fait de dire que je vois pas de grande crise systémique pour demain matin, une crise équivalente à celle qu'on a connue en 29 ou en 2007-2008. Par contre, sur l'aspect de la dette, c'est vrai que vous regardez la somme des crédits qui sont distribués aux ménages, aux entreprises et aux États. En gros, en 2007, ça faisait l'équivalent de 2%, de 200% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est plutôt près de 250%. Donc vous vous dites, attention, ça va peut-être exploser. Tout le débat public, notamment en France, est pour dire les dettes publiques ont explosé. La dette publique française est proche de 100% du PIB, etc. En fait, quand vous regardez la dette en France, par exemple, et moi je suis plutôt inquiet pour la France, c'est vrai que la dette publique française, elle est proche de l'équivalent de 100% du PIB. La dette des entreprises, c'est près de 140% du PIB. Donc si vous vous inquiétez du fait qu'il y a beaucoup de dettes, moi ce qui m'inquiète le plus, c'est la dette des entreprises privées. Alors quand vous regardez l'INSEE, enfin, il y a beaucoup d'études. Pourquoi est-ce que nos entreprises sont si endettées? Une partie de la raison, c'est parce qu'elles investissent un peu mieux que dans le reste de l'Europe. Tant mieux. Une autre partie de la raison, c'est parce qu'elles se font de la trésorerie. Le jour où ça va pas bien, elles ont un petit matelas. Tant mieux. Mais la troisième raison, c'est celle-là qui m'inquiète, c'est quand vous regardez le montant des actions détenues par les entreprises. On dit les actions, on a l'impression que c'est nous, les ménages ou les compagnies d'assurance, mais les entreprises productives achètent aussi des actions, elles spéculent en fait sur le marché boursier. Et ça, vous regardez en 2009, c'était l'équivalent de 80% du PIB, en 2017, c'est l'équivalent de 180% du PIB français. Donc, des entreprises qui devraient produire, c'est-à-dire combien j'investis, combien j'embauche de gens.
Oui, mais là, Christian, est-ce que vous êtes en train de nous dire, que cette dette est énorme, mais est-ce que c'est...
Alors, je pense que...
On ne peut pas dire d'un côté que les entreprises gagnent énormément d'argent, qu'elles sont en super santé financière, qu'elles font beaucoup de profits, etc., et qu'en même temps, leur santé est menacée. Moi, tous les travaux que Christian a cités, et on pourra citer ceux de la Banque de France aussi, ceux de l'INSEE, etc., ont des conclusions qui sont relativement peu alarmistes sur ce haut niveau de...
Il n'y a pas d'entreprise zombie, par exemple. Il n'y a pas d'entreprise qui ne font pas de chiffre d'affaires.
Financière, peut-être que François Villeroy-Gallo pourra nous expliquer pourquoi, mais nous a dit, à l'été dernier, il y a tellement de risques de fait que les banques prêtent beaucoup d'argent à ces grandes entreprises que le Haut Conseil de Stabilité Financière a dit attention, je commence à vous dire il faut faire attention, sinon je vais vous mettre des contraintes supplémentaires. Donc il y a une inquiétude du côté des régulateurs.
Bon, et la crise et la dette des pays émergents, parce qu'on nous dit que c'est ça plutôt.
C'est ce qu'a dit Emmanuel. Je pense que la dette argentine, la dette turque, on a l'habitude de gérer.
C'est des crises à l'ancienne.
Malheureusement pour les gens qui sont dedans, c'est vraiment des vraies crises et ils s'en subissent les conséquences. Mais bon, je pense que c'est pas des foyers de risque systémique.
On va avoir quand même, on sait qu'aux États-Unis les taux d'intérêt vont remonter, est-ce que ça va nous poser un problème? Il va y avoir une remontée de ces taux aux États-Unis puis en Europe.
Bah, les taux d'intérêt à court terme, ceux fixés par la Banque centrale remontent parce que l'économie américaine est dynamique. Et ça, moi, j'y vois plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la Banque centrale américaine est en train de se reconstituer un levier d'action pour agir lors de la prochaine récession. C'est-à-dire qu'elle pourra baisser ses taux pour stimuler l'économie. Ce levier, on l'a pas en Europe. Les taux vont rester bas pendant très longtemps.
C'est l'ancien monde, ça.
On peut considérer que ça, c'est l'ancien monde. Mais est-ce qu'à un moment, il faut pas se dire que finalement, ces politiques monétaires exceptionnelles qui ont été menées n'étaient qu'une parenthèse et qu'il faudra bien revenir à l'ancien monde. Peut-être qu'on ne reviendra jamais, effectivement, à cet ancien monde et qu'on restera avec ces politiques monétaires extrêmement accommodantes. Mais là, ça veut dire qu'il n'y a pas de risque des taux d'intérêt. Parce que la principale menace qui est brandie aujourd'hui, c'est la remontée des taux d'intérêt à long terme.
C'est ma question.
C'est ceux qui calent tous toutes les stratégies d'investissement. Et les gens disent, il y a une bulle, ils sont extrêmement bas. Mais moi, je conteste cette idée de bulle. Une bulle, elle est dangereuse quand vous ne savez pas qu'il y a une bulle et qu'elle explose. Là, cette baisse des taux d'intérêt à long terme, elle a été organisée par les banques centrales.
Exactement.
Et donc, on n'est pas dans le cas de figure d'une bulle. C'est pour ça que je suis moins inquiet sur ce sujet-là. En revanche, moi, je suis pas très inquiet pour les entreprises. Les vrais risques, ils sont plutôt peut-être, faut chercher du côté des banques, banques italiennes. Il y a d'autres grandes banques qui sont quand même dans des situations compliquées. Et là, c'est peut-être un peu plus délicat. Il y a des risques aussi du côté de ce qu'on appelle le shadow banking, la finance de l'ombre. Ouais. Toutes ces sociétés qui font de la finance et qui sont assez opaques, ce qu'on appelle les dark pools, c'est-à-dire ces transactions parallèles qui sont menées par les investisseurs institutionnels, mais pour échapper un petit peu à la vigilance des marchés.
Christian.
Donc il y a des tas de choses qui se développe.
Christian Charagneux, ce ouais, ça veut dire que le dark pool, le shadow banking, la finance de l'ombre, ça ne vous inquiète pas ?
Non, le shadow banking, d'après le Conseil de stabilité financière, c'est 13% de la finance mondiale et il y a quelques années, c'était 11%. Donc oui, attention, il y a du shadow banking. Ce qui est inquiétant dans le shadow banking, c'est est-ce que ces fonds d'investissement, le shadow banking, en gros, c'est des fonds d'investissement. Qui ne sont pas régulés. Et qui font transférer les risques un peu partout dans le monde. Est-ce qu'ils prennent de l'argent ? Est-ce qu'ils sont financés par les banques ? Parce que si c'est oui, le jour où ils ont des problèmes, ça se répercute sur les banques. Bah non, le Conseil de stabilité nous dit peu financé par les banques. Juste peut-être, si vous me permettez, Alexandra, un petit mot sur les taux d'intérêt. Les banques centrales, comme l'a dit Emmanuel, font attention. Et il y a trop d'épargne dans le monde. Le fait qu'il y ait trop d'épargne dans le monde fait que les taux d'intérêt, à long terme, à mon sens, vont rester bas. Il y a une étude de la Banque centrale américaine qui nous a fait voir cette semaine que les taux, les perspectives, c'était quoi ? Les taux réels, une fois que vous avez enlevé l'inflation, 1% pour bien longtemps. Donc les taux vont rester bas.
Allez, je voudrais aborder le chapitre des banques. Est-ce que on a assaini le système ? Je vous propose de partir tout de suite à Washington, aux États-Unis, voir ce qui se passe.
Welcome to a special edition of The Economy and the Future for American Prosperity.
Bonjour Pierre-Yves Dugas.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Pierre-Yves, vous êtes le correspondant de France Inter aux États-Unis. Est-ce que les banques américaines ont déjà oublié les leçons de la grande récession ? On entend qu'elles recommencent à prêter à des particuliers peu solvables, des prêts à haut risque, tout simplement ce qu'on appelait en 2008 les subprimes.
Oui, les prêts subprime ont repris, mais tout de même de manière limitée, parce que le régulateur américain garde un œil sur ces affaires-là, extrêmement aiguisées depuis les leçons qui ont été tout de même retirées de cette crise il y a 10 ans. Dans l'automobile, il y a des prêts subprime, mais c'est une activité en repli depuis 2015. 2015 avait représenté jusqu'à 19% des prêts automobiles. Une des raisons de la stagnation des ventes automobiles, d'ailleurs, est précisément que les établissements de crédit font beaucoup moins de prêts subprime qu'auparavant. Alors on a rallongé la durée des prêts, les taux ont grimpé, le crédit bail dans l'automobile devient la norme, mais les régulateurs ne parlent pas encore de bulle. Les prêts aux étudiants, c'est une forme de prêt subprime d'une certaine manière, c'est une situation particulière. En gros, en 15 ans, l'endettement des étudiants américains a tout simplement triplé. Et on voit aujourd'hui de jeunes diplômés qui se retrouvent endettés, qui ne peuvent pas acheter de maison, qui achètent moins souvent qu'auparavant une voiture, qui sont souvent obligés de retourner vivre chez leurs parents. Ce sont là de vrais problèmes de société, mais ce ne sont pas des problèmes systémiques du point de vue bancaire, du point de vue financier, parce que ces dettes étudiantes sont garanties à 90% par l'oncle Sam. On voit donc un vrai problème de finances publiques dans cette affaire de prêts aux étudiants, plus qu'un problème de risque bancaire.
Et donc, Pierre-Yves, 10 ans après la grande récession, est-ce que, vu des États-Unis, sur ces risques bancaires, sur le risque systémique, est-ce qu'on est complètement serein ?
On n'est jamais complètement serein. On est serein dans la mesure où la croissance aujourd'hui est forte aux États-Unis, le chômage est au plus bas depuis près de 20 ans, l'embauche est solide, la pénurie de main-d'œuvre commence à faire grimper les salaires, et pourtant, la politique monétaire, aujourd'hui encore, est très stimulante. En fait, on est sorti de cette crise grâce à un endettement public massif. C'est un prix qui a été masqué par 10 années, disons, de manipulation de taux par la Réserve fédérale. Le défi aujourd'hui reste de se déshabituer de cette drogue, de l'assouplissement quantitatif, de l'argent très bon marché.
Pierre-Yves Dugas avec nous depuis Washington. Je crois que là, il y a un sujet, il y a un petit consensus quand même sur il va falloir se déshabituer de l'argent très bon marché, mais à quelle vitesse? Christian Chavagneux, là on a Pierre-Yves Dugas qui vient de nous dire qu'on refaisait du subprime aux États-Unis. Est-ce que le système bancaire est assaini en Europe, aux États-Unis?
Oui et non. Je vais faire une réponse de Normand. Oui, parce qu'il y a moins de connexions entre les banques. Le problème des connexions entre les banques, c'est dès qu'il y en a une qui a une difficulté, ça se transmet à tout le monde. Donc si les banques sont moins connectées, bah, il y a moins de risques. En fait, la mondialisation bancaire, elle a diminué d'un quart sur les 10 dernières années. J'étais surpris de découvrir ça. Et notamment, les prêts que se font les banques entre elles a diminué pour les banques de la zone euro de moins 60%. Donc, moins de connexion entre les banques, ça, c'est une bonne chose. Les banques, elles ont plus de capital. Et ça, c'est bien parce qu'une banque, c'est comme une autre entreprise. Dès qu'elle fait des pertes, il n'y a que le capital qui éponge. Moins il y a de capital, plus nous, les contribuables, on est obligés de venir les aider. Là, les banques ont plus de capital.
Parce qu'on les y a obligés.
Parce qu'on les a obligés. Parce que les régulateurs les ont obligés. Ouais. Maintenant, les banques aujourd'hui, elles sont aussi plus grosses qu'hier. La plus grosse banque du monde, elle est chinoise, elle a le total de ses activités, c'est 4 000 milliards de dollars. C'est deux fois le PIB de la France sur une banque. Donc, elles ont plus de capital, c'est bien, mais est-ce qu'elles en ont assez si demain il y a une crise? Là, les experts nous disent non, pas forcément. Le shadow banking, on en a parlé un peu avec Emmanuel, c'est petit et ça n'explose pas. Par contre, les plus grosses banques du monde, aujourd'hui les 10 plus grosses banques du monde sont plus grosses qu'en 2007. Donc, attention, c'est
et on a vu les Chinoises.
Plus des géants. Et puis, c'est oui, c'est la hiérarchie s'est complètement transformée. Les Chinois, dans les 10 premières, vous avez 4 ou 5 Chinoises. Par contre, moi, il y a vraiment une inquiétude qui est vraiment forte en Europe, c'est la Deutsche Bank. Vous prenez plus grosse banque allemande. Hein. Le cours de l'action de la Deutsche Bank en 2007, c'était plus de 100 euros. Aujourd'hui, c'est moins de 10 euros, divisé par 10. Et si vous avez, comme moi, suivi les marchés boursiers des banques en 2008, quand vous voyez les cours des actions des banques diminuer à 9 euros, 8 euros, 5 euros, 1 euro, vous dites, ça y est, le système a explosé. Moi, j'ai peur que la Deutsche Bank nous explose au visage. Et puis, il y a une dernière chose.
Allez-y, vous aurez le mot de la fin du coup. Hein. Allez-y.
Pardon Emmanuel, c'est le fait que on a eu les banques ont payé plus de 350 milliards d'amendes. Pourquoi? Pour plus de 140 comportements délictueux. Toutes les grandes banques du monde. Je vais vous faire la liste de tous les PDG qui ont été mis en prison. Voilà, vous avez entendu ce silence, ce blanc. Aucun, les comportements éthiques n'ont pas été corrigés.
C'est même pire que ça, Christian. C'est que la plupart des patrons des grandes banques qui étaient patrons au moment de la crise de 2007-2008, soit le sont encore, soit vont partir à la retraite très gentiment.
Avec un
très beau chèque.
Bon, on reparlera de ça avec François Villeroy de Gallo, le gouverneur de la Banque de France, sur l'assainissement du monde de la finance. Christian Chavagneux, Emmanuel Le Chip, les débatteurs du Magéco, merci à vous. Donc dans 10 minutes, François Villeroy de Gallo dans ce studio. Est-il inquiet? On lui posera la question, mais pour le moment, je vous propose de rouvrir le dossier Dexia. Vous vous en souvenez? La crise explose, les taux d'intérêt bondissent et des communes découvrent qu'elles ont signé des prêts toxiques, insoutenables. C'est ce qui s'est passé par exemple à Saint-Étienne. Aujourd'hui, Maurice Vincent, l'ancien maire, se souvient aussi au micro d'Hélène Philly.
Vous m'avez donné rendez-vous dans un endroit que vous connaissez bien, là.
Ah oui, j'ai travaillé là 25 ans, 30 ans même avant d'être élu à la mairie.
On est où?
C'est l'université Jean Monnet à Saint-Étienne, une très belle université.
Vous êtes prof d'économie?
Oui, j'étais professeur d'économie dans cette université.
Quand vous êtes arrivé à votre poste de maire en 2008, vous êtes tombé des nues?
Oh, écoutez, j'en garde un souvenir extrêmement précis parce que je sortais d'une réunion extrêmement conviviale, comme vous pouvez l'imaginer, 3 mois après avoir gagné les élections municipales, donc dans une ambiance presque euphorique. Et l'auditeur m'attendait avec un certain nombre de cadres municipaux accueillis par un silence de mort qui allait m'expliquer en un quart d'heure qu'il y avait 270 millions d'emprunts spéculatifs dans la dette de la ville. Pour moi, dès qu'on m'a parlé de taux d'intérêt, des crédits de la dette de la ville liés à des spéculations sur les marchés d'échange, là, ma formation d'économiste m'a fait sauter au plafond. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de fou?
Ça a été la bagarre de votre mandat?
Oui, parce que je n'avais pas d'autre choix, compte tenu de l'ampleur que ça prenait à Saint-Étienne, de déclencher évidemment une offensive pour faire respecter les droits des CFA, puis pour défendre mes concitoyens, qui n'avaient quand même pas à payer cette facture extraordinaire, qui à un moment donné, la facture s'élevait à 140 millions d'euros tout de même.
Ça représente
un an et demi d'impôts de la ville.
Et aujourd'hui, on peut dire que ça a coûté ou ça coûte combien aux contribuables stéphanois ?
40 millions d'euros à payer sur une vingtaine d'années. C'est beaucoup trop.
C'est le cold case de ce samedi 15 septembre. Dans les années 2000, un millier de collectivités se laissent séduire par des prêts très particuliers, à taux très variables. En France, pour l'essentiel, c'est la banque Dexia qui les distribue. Les maires espèrent faire de bonnes affaires. Mais la crise va soudain faire bondir les taux d'intérêt jusqu'à 30 ou 40%. 10 ans plus tard, comment ces villes et leurs habitants s'en sont-ils sortis ? Quelle est finalement la facture pour le contribuable ? C'est le reportage d'Hélène Philly.
Bonjour, enchantée.
Enchanté.
Merci beaucoup de me recevoir.
Non, mais je vous en prie. Je vous laisse vous installer. Donc, je m'appelle Gaël Pernerieau, je suis maire de Saint-Étienne et présidente de Saint-Étienne Métropole. Nous avons très largement assaini la situation et aujourd'hui, je pense pouvoir dire que la ville n'est plus exposée ni en danger à cause de ses emprunts.
Est-ce qu'ils existent toujours ? Est-ce qu'on continue à les rembourser ?
Alors, il en reste un. C'est un emprunt qui est en parité sur plusieurs devises internationales, donc effectivement très difficilement maîtrisable, et dont les premières formules se déclencheront à partir de 2021. C'est une épée de Damoclès qui pèse sur notre tête. Le fait d'avoir un emprunt dont vous ne connaissez absolument pas quel sera le taux d'intérêt que vous aurez à payer à partir de demain, 2021, c'est après-demain, c'est évidemment un risque que nous essayons d'amoindrir le plus possible. Évidemment, la dangerosité de ces emprunts vient du fait que nous ne savons absolument pas quel en sera le taux sur sa durée de vie.
Un emprunt structuré est considéré comme toxique car il a plusieurs strates. Le taux est fixe les premières années et imbattable. Et ensuite, il varie. Adossé à une monnaie étrangère, comme le franc suisse, il peut atteindre des sommets jusqu'à 30% dans certaines communes. Et il n'y a pas que les villes qui sont touchées, il y a l'hôpital public aussi.
Je suis Alexandre Charlier, représentant FO du CHU de Saint-Étienne.
C'est encore une réalité ? Pour le CHU, c'est vrai qu'on pense beaucoup, quand on pense emprunt toxique, on pense beaucoup aux collectivités, aux mairies. On pense un peu moins aux hôpitaux.
Oui, tout à fait. Les emprunts toxiques sont toujours présents. Les projections nous amènent jusqu'en 2035 pour la fin de ces emprunts toxiques.
Il y a des conséquences très concrètes pour le CHU.
Les conséquences très concrètes sont quand même les suivantes. C'est que il y a des arbitrages qui doivent être faits au quotidien, chaque année, pour savoir quel matériel va être remplacé, lequel ne le sera pas, puisqu'on n'a pas le financement et pas le taux de marge nécessaire. Ces emprunts toxiques ressortent régulièrement et sont un sorte d'épouvantail qui sont agités devant le nez de tout un chacun pour justifier aussi cette politique de rigueur qui quand même est en place depuis 2010. Nous sommes en 2018, ça fait quand même 8 ans que l'ensemble des agents font des efforts et que à ce jour les efforts n'ont pas de retour et de contrepartie.
Le CHU de Saint-Étienne est l'un des rares à poursuivre Dexia en justice, à l'instar de la petite commune des Côtes d'Armor, Saint-Calguildo, 3500 habitants. Nous sommes allés voir la maire, Josiane Allori.
Voilà, nous sommes chez vous. Oui, dans le bureau du maire.
Vous avez décidé de poursuivre tout de suite Dexia ?
Rapidement. C'était le mandat précédent. Nous sommes partis en bagarre avec eux depuis 2010, donc 8 ans.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas essayé de renégocier ?
Nous avions essayé de renégocier, mais les conditions de renégociation étaient vraiment très défavorables, avec des indemnités de remboursement anticipées qui présentaient des montants faramineux. En 2015, le montant des remboursements anticipés, l'indemnité, était de 5,6 millions pour un capital restant dû, je vais dire à ce moment-là, 3,3 millions. Nous sommes le petit poussé, où nous sommes le pot de fer contre le pot de terre. De gagner en première instance, c'était vraiment une victoire et une reconnaissance aussi de ce manquement de conseil que l'on avait reçu de la part de Dexia. C'est des années de bataille. Nous avons perdu en appel, mais nous avons gagné en première instance. C'est ce qui fait aussi que nous avons pris la décision d'aller en cassation.
Au niveau des finances de la commune, Qu'est-ce qu'il vous a empêché de faire, cet emprunt toxique ?
Ne serait-ce que notre boulevard de la mer, qui aurait besoin d'être fait. Eh bien, effectivement, les finances de la commune aujourd'hui font que, ben, il sera refait, mais dans un temps un peu plus long. Dexia, je dirais, rentrer dans les mœurs, quoi. On le paye, mais on a la fierté de le payer.
Saint-Calguildo a refusé l'aide du fonds de soutien, comme 270 autres collectivités, et continue de se battre. Hélène Ferron-Polony est l'avocate de la ville. Saint-Calguildo a été la première collectivité à remporter une vraie bataille judiciaire contre Dexia.
Oui, beaucoup d'élus se sont reconnus dans la situation qu'avaient vécu les élus de Saint-Calguildo en signant le prêt structuré devenu toxique. Et c'est vrai que ce jugement leur avait donné un regain d'espoir dont l'État a tenté d'éteindre le feu en poursuivant sa route qui était la sienne, qui était de dire que désormais, bien que ces prêts étaient définitivement interdits, ils étaient considérés comme étant légaux pour toute la période antérieure.
Le contribuable de ces communes, de ces collectivités, paye toujours ces emprunts toxiques.
Aujourd'hui, le contribuable national et le contribuable local continuent à payer les conséquences des emprunts toxiques, tout à fait. Les collectivités consacrent quasiment la totalité de leur trésorerie au remboursement et au paiement de cette affaire. Si elles n'ont pas accepté l'aide, elles payent des taux d'intérêt qui sont élevés mais qui sont variables. Le franc suisse s'est apprécié, s'est déprécié, s'est apprécié, puis s'est déprécié à nouveau. En ce moment, on est plutôt en phase plus basse. Les collectivités qui ont adhéré au fonds de soutien, elles, pour beaucoup, sont sorties au pire moment. C'est-à-dire au moment où le franc suisse était au plus haut et où les indemnités de remboursement anticipées étaient très élevées. Aucun élu n'a adhéré au fonds de soutien avec joie. Aucun. Parce qu'aucun d'entre eux n'a pu dire à ses administrés « ça nous coûtera de toute façon beaucoup moins cher ». C'est pas vrai. Ça coûte de toute façon très cher à tout le monde.
La Cour des comptes a chiffré le coût global de la sortie des emprunts toxiques pour les finances publiques. 1 milliard d'euros pour l'État, 2 milliards pour les collectivités locales.
Bonjour, Thomas Rougier, secrétaire général de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale.
On peut dire que vous avez vécu cette crise au cœur du système.
Oui, j'étais chez Dexia, en direction des études.
Quel souvenir en avez-vous ?
D'un énorme gâchis. Humainement, pour les gens qui étaient chez Dexia Crédit Local, donc ça intéresse finalement que nous probablement, mais ça c'était humainement assez difficile. Et par ailleurs, sur ce gâchis d'un outil de financeur des collectivités locales.
Ce qui est sûr, c'est que cette crise a changé la donne.
Oui, de façon très très claire.
D'abord,
les règles ont changé. Les établissements financiers l'ont très très vite compris et puis on leur a imposé un certain nombre de règles. Je dis on, c'est le législateur.
C'est-à-dire le code général des collectivités territoriales. Interdiction désormais de vendre des produits toxiques.
C'est très réglementé sur les produits qui sont accessibles. Après, il y a une classification qui existe des produits. Vous devez présenter le résultat de cette classification. Et en interne dans la collectivité, la communication entre les élus et vis-à-vis de l'extérieur dans leurs comptes est beaucoup plus claire que précédemment sur la nature des produits choisis. Ça n'empêche pas de rester extrêmement vigilant. Et le bon sens doit revenir pour tout le monde. Hein. Les établissements financiers sont des établissements extrêmement puissants. Même s'il n'y a pas forcément une envie de nuisance, hein, je ne pense pas que les établissements financiers aient voulu à l'origine mettre leurs clients dans une situation catastrophique. Ou alors, mais je suis pas dans le secret des dieux, hein. Ou alors vraiment, faudrait avoir affaire à des gens réfléchis. Mais enfin, on ne condamne pas à l'avance ces clients. Par contre, on fait des erreurs qui mènent les clients aussi dans le mur. Donc, il faut être très très vigilant.
Et encore aujourd'hui?
Je suis persuadé. Mais moi, je suis abîmé par cette histoire. Donc, du coup, il faut demander à des gens qui, peut-être moins abîmés, mais en tout cas, la vigilance, elle doit être constante. Et je sais les collectivités, dans leur grande majorité, armées pour cette vigilance. Et là, je suis bien placé pour en parler maintenant. C'est ce qui est en train de se passer.
Un cold case, retour sur le scandale Dexia. En sommes-nous vraiment sortis ? C'était le reportage d'Hélène Fille.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Invité du Mag Éco consacré aux leçons de la crise, le gouverneur de la Banque de France. Bonjour François Villeroy de Gallo.
Bonjour Alexandra Ben Saïd.
Alors vous avez entendu cet homme qui travaillait pour Dexia, ces prêts toxiques à l'époque. Là on parlait des subprimes avec Pierre-Yves Dugas tout à l'heure qui repartent aux États-Unis. Est-ce que le monde de la finance est devenu plus responsable ?
Je crois qu'il faut qu'on revienne très rapidement sur les causes de la crise. C'était une crise extrêmement grave. On a réussi à la dépasser, à réparer, mais il faut jamais l'oublier. Et au fond, il y a trois causes. Il y a une cause technique, c'est ces produits dont vous venez de parler, ces innovations extrêmement risquées. Alors c'est les crédits toxiques aux collectivités locales, c'est les subprimes. Et je crois qu'il faut se rappeler là une règle de bon sens, c'est qu'il n'y a pas de produit miracle en finance. Je vais le dire autrement, si vous êtes épargnant et que votre conseiller financier vous propose un produit dont il vous dit qu'il a un rendement élevé et un risque bas, fuyez.
Et vous pensez
ce conseiller est soit un incompétent, soit un escroc. Voilà.
Et vous avez changé de regard là-dessus, François?
Non, pas du tout. J'ai toujours dit ça et je crois que c'est le bon sens et qu'il faut se rappeler. Alors ensuite, il y a une cause économique dont on a parlé, c'est l'augmentation continue de l'endettement. De l'endettement privé, c'est-à-dire les entreprises et les ménages, mais aussi de l'endettement public qui a joué un grand rôle en Europe, en zone euro. Et puis il y a peut-être une troisième cause, qui est une cause plus éthique, je dirais, c'est que la finance, elle ne doit pas être sa propre maîtresse. Elle est là pour servir l'économie. Et il y a certains financiers qui ont pensé avant tout à se servir, à travers des bonus très larges et leurs rémunérations, plutôt qu'à servir leurs clients. Il y a eu aussi cette fiction, notamment aux États-Unis, de l'autorégulation. Non, la finance, elle est là pour être au service. Et je crois que les régulations sont là pour l'encadrer.
Alors on va revenir sur toutes ces causes, mais d'abord sur la dérégulation. Aujourd'hui, il y a un lobbying très fort, il n'a en fait jamais cessé. Mais aujourd'hui, on entend des banquiers qui nous disent « on pourrait faire tellement mieux, vous savez, il y a de la compétitivité, on pourrait servir mieux l'économie, il faut nous alléger un petit peu le carcan des règles ». Est-ce que vous subissez cette pression ?
Oh, je l'entends, on l'entend encore plus fort aux États-Unis, et heureusement, on y résiste. Une des grandes tentations qui peut exister aujourd'hui, et c'est un des grands risques, c'est la tentation de l'oubli. Elle est encore plus forte outre-Atlantique. Il faut stabiliser la régulation, elle a été considérablement renforcée, on va y revenir, et je crois que de ce point de vue-là, la réponse à la crise a été à la hauteur, mais il n'est pas question de baisser la garde et de revenir en arrière, ça serait préparer la prochaine crise. Je note au passage, d'ailleurs, que par rapport à un discours américain de M. Trump défait beaucoup de choses et je crois représente une menace, mais dans l'ordre financier, les responsables qu'il a nommés sont attachés à un règle du jeu telle qu'elle a été renforcée et telle qu'elle est commune à l'échelle mondiale.
Mais François Villeroy-de-Gallo, quand on était en 2008-2009, il y avait le G20, les politiques étaient quand même soudés pour coopérer, pour monter des garde-fous. Aujourd'hui, ils sont très divisés. Est-ce que ça n'est pas une menace?
Alors, je crois qu'il faut revenir, effectivement à ce qui s'est passé en 2008-2009, parce qu'à l'époque, on répond à la crise beaucoup mieux qu'on ne l'avait fait dans les années 30. Certains des responsables, d'ailleurs Ben Bernanke, qui est à l'époque le patron de la Banque Centrale Américaine, était un spécialiste des années 30 et ça a aidé. Et on met en place le G20, ce qui était assez nouveau, avec les principaux pays émergents aussi autour de la table. C'est plus seulement les pays occidentaux. Et le G20 se réunit à Londres et publie un communiqué. C'est assez rare qu'on cite des communiqués du G20, parce que d'habitude, c'est des textes très complexes, très ennuyeux, etc. Je vais peut-être en citer deux phrases, si
alors
vous voulez.
Alors allez-y, on va faire une première.
Je l'ai là. Et il dit les choses très clairement et fortement. À crise mondiale, solution mondiale. Nous nous engageons donc à faire tout ce qui sera nécessaire pour 1. Remettre en état notre système financier pour rétablir l'activité de prêt, 2. Renforcer la régulation financière pour rétablir la confiance. C'est clair et c'est ça qui a été fait.
Et est-ce qu'on pourrait l'avoir aujourd'hui ?
On a renforcé considérablement les règles de sécurité sur les banques. Vous n'avez d'ailleurs qu'à écouter certaines protestations des banques. On a renforcé leur capital. Le capital des banques, y compris en France, a plus que doublé. On a renforcé ce qu'on appelle la liquidité, c'est-à-dire leurs règles de précaution sur la trésorerie, et puis on a renforcé la conformité, c'est-à-dire justement le respect des règles éthiques et de bon comportement. Et ça n'a pas empêché les banques de continuer à faire crédit, contrairement
François
à ce qu'on craignait. Donc là, il y a eu du bon travail fait.
Est-ce que, par exemple, Christian Chavagneux tout à l'heure parlait de la Deutsche Bank, est-ce qu'il y a des banques en Europe qui sont inquiétantes? Est-ce que le système bancaire mondial est inquiétant à deux échelles différentes?
Alors, je crois que si on se tourne sur la situation d'aujourd'hui, il faut évidemment rester extrêmement vigilant. Le premier devoir d'un superviseur, comme je le suis, c'est de ne jamais s'assoupir et d'être vigilant sur
tous les fronts. Par définition, si on savait où la prochaine crise allait se produire, elle ne se produirait pas. Hein. Donc il faut être vigilant sur tous les fronts. Je ne commenterai pas sur telle ou telle banque en particulier. Je crois qu'un des premiers risques que nous avons à regarder, il est plutôt hors du système bancaire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le shadow banking, dont on a parlé tout à l'heure, qui lui a été moins régulé. C'est les grands fonds d'investissement, ils sont en partie américains. Là, il faut renforcer les choses parce que ça a été un peu l'enfant oublié du renforcement de la régulation. Donc, premier risque qu'on peut voir, c'est un secteur moins régulé en dehors des banques. Il y en a d'autres.
Alors justement, est-ce que nous parlions également de la dette des pays émergents? Est-ce que ça, c'est un
alors,
grand risque?
Alors ça, c'est le deuxième risque. Vous avez tout à fait raison. C'est que, alors que je citais cette cause économique de la dette qui avait beaucoup cru avant 2007, la dette, malheureusement, elle a continué à croître. C'est l'alerte en particulier de Jean-Claude Trichet qu'on citait tout à l'heure. Je vais vous rappeler les chiffres. Quand on regarde la dette mondiale, l'ensemble public et privé, hein, c'est-à-dire ménages et entreprises, puis vous le rapportez au PIB mondial, les chiffres sont assez simples. On était à 190% de dette par rapport au PIB mondial en 2001, bien avant la crise. On est monté à 210% en 2007, au moment de la crise, mais on est aujourd'hui à 240%. Donc vous voyez que la croissance a continué. Simplement, ça s'est déplacé en termes de composition. Ça a un peu reculé dans les économies avancées. Et ça a beaucoup cru dans les pays émergents. Et on voit là, ces dernières semaines, la crise dans certains pays émergents, l'Argentine et la Turquie. C'est une des choses qu'il faut surveiller. Est-ce qu'il y a risque de contagion? Aujourd'hui, on ne le voit pas. Je pense en particulier sur la Chine dont on a parlé, où il y a une forte augmentation, que les autorités chinoises ont les moyens d'agir. Mais il faut être extrêmement vigilant. Partout, l'augmentation de la dette veut dire augmentation des risques. Et puis, il y a un troisième risque, si vous me permettez, qui est aussi tiré des leçons de la crise. Vous le disiez, c'est qu'on a réagi en 2009 à l'échelle du G20 de façon groupée, collective. Tout le monde s'y est mis ensemble pour réparer la maison. Ça a été vrai d'ailleurs aussi en Europe, au passage. On a fait l'union bancaire, on surveille mieux les banques ensemble, on a fait un mécanisme européen de stabilité, donc il y a eu de l'action collective. Aujourd'hui, il y a la tentation du chacun pour soi. Et soyons clairs, la politique de M. Trump symbolise ça. Quand il dit « America first », qu'il est protectionniste, qui fait une relance budgétaire aujourd'hui totalement à contre-temps, alors que l'économie américaine est déjà proche de la surchauffe, ça augmente les risques pour l'avenir.
François Villeroy de Gallo, je voudrais vous parler de la France et des dernières prévisions de la Banque de France. La croissance va plafonner à 1,6% pendant 3 ans. Est-ce que la reprise est déjà derrière nous?
Non. 1,6% pendant 3 ans, c'est une croissance de l'économie française qui est supérieure à la vitesse de croisière, à ce que les économistes appellent la croissance potentielle. Et donc, c'est un vent qui reste porteur pour l'économie française. Il y a d'ailleurs dans notre prévision, que nous avons publiée hier de façon tout à fait indépendante, il y a du pouvoir d'achat pour les ménages, plus 1% au moins chaque année. Il y a des créations d'emplois, autour de 200 000 attendues encore cette année, et un taux de chômage qui devrait continuer à baisser, même si on aimerait qu'il baisse plus vite. On devrait être autour de 8% de taux de chômage pour la France métropolitaine à la fin 2020. Donc ça, c'est favorable, mais alors raison de plus pour poursuivre et amplifier notre effort de réforme. Parce que la France est encore en retard de croissance sur l'Europe, parce que la France est en retard de réforme. Vous savez, quand on regarde la croissance en Europe, ce qui est très frappant, nous avons publié avec la Banque Centrale Européenne une prévision de croissance de 2% pendant que la France est à 1,6. Les pays qui croissent le plus... pays qui croissent le plus en Europe sont les pays qui ont fait des réformes avant nous. L'Allemagne, bien sûr, mais aussi les Pays-Bas ou l'Espagne et des pays de nature différente.
Nous sommes en train de faire des réformes qui vont pour vous assez vite, parce que les Français, eux, ils attendent des résultats économiques.
Il y a deux autres leçons de nos voisins. Alexandre Metsaïd, je crois que ce point est très important, effectivement. Il y a deux autres leçons de nos voisins, c'est que bien sûr, les réformes, ça prend du temps pour être efficace. Ça prend 2 à 3 ans. Et nous prévoyons d'ailleurs que la France va rattraper le train européen d'ici 2020. Et puis l'autre leçon, c'est que les réformes, c'est parfaitement compatible avec le modèle social européen auquel nous sommes attachés. Et en particulier, on peut arriver à maîtriser mieux la dépense publique tout en gardant le modèle social européen qui est très différent du modèle américain. On parlait tout à l'heure des inégalités. Je suis extrêmement sensible à ce sujet. Je pense que l'Europe a des meilleures réponses aux inégalités que les États-Unis.
Et d'un mot, dans votre lettre au président, la lettre du gouverneur en juin, vous parliez d'efforts équitables à demander aux ménages et aux entreprises. D'un mot, Est-ce que les efforts sont demandés de façon équitable aujourd'hui?
Je crois qu'il faut que nous soyons tous prêts à les faire, si je peux le formuler de façon
un peu différente. Ah, ça n'est pas une réponse précise. Équitable
compris...
ou pas équitable?
Non, c'est une réponse tout à fait précise, y compris sur les économies de dépenses, si je peux expliquer ceci. Ah. Nous sommes tous collectivement en faveur de moins d'impôts et de moins de dettes. Et donc, nous disons collectivement, nous voulons moins de dépenses. Simplement, quand on regarde des économies, nous avons toujours des idées pour les autres. On peut le comprendre. Donc, les efforts qu'il faut que nous fassions collectivement doivent effectivement être répartis. Et il faut que nous regardions l'efficacité du service public.
François,
moi, je suis
François
un passionné du service public, mais je crois que nous pouvons faire beaucoup mieux en France.
François Villeroy de Gallo, merci d'avoir été sur France Inter. Sandrine, c'est Alice qui vous écrit de Grenoble. Elle écrit à Ma Vie au Boulot. L'un de ses collègues vient d'obtenir un gros poste. Apparemment, ça n'est pas le plus compétent qui a été choisi. Y a-t-il une prime à l'incompétence, Sandrine?
Ah, les lois du management sont mystérieuses, Alice. Mais oui, ce ne sont pas toujours les plus compétents qui sont promus, c'est vrai, dans tous les secteurs. On vient de le voir ce matin avec la crise de 2008. D'éminents banquiers avaient beau occuper le dernier étage de la Lehman Brothers. Ils étaient aussi experts en titrisation synthétique qu'un étudiant en histoire médiévale. Ils n'ont pas vu arriver ces vilains produits toxiques qui ont déclenché une catastrophe planétaire. Alors pourquoi ceux qui sont techniquement les plus compétents ne sont-ils pas propulsés au sommet? Eh bien, parce que les entreprises ont tendance à laisser les meilleurs là où ils sont. Ils maîtrisent tellement bien leur sujet, on a tellement besoin d'eux que ce serait un danger de les changer de place. Voilà ce que raconte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP, dans une vidéo amusante de Xerfi. Dilbert, vous savez, ce héros de bande dessinée de la vie de bureau, ne dit pas autre chose. Les gens les moins compétents sont systématiquement affectés aux postes sur lesquels ils risquent de causer le moins de dégâts, ceux de manager.
Franchement, Sandrine, on a quand même du mal à croire que ce soit la seule raison.
Eh bien, cette boutade de Dilbert est inspirée du principe de Peter, développé il y a 50 ans par Lawrence Peter et Raymond Hull. Ces auteurs affirment que tout employé est amené un jour à s'élever à son niveau d'incompétence. Pour faire court, il suffit de se montrer patient et la promotion finira par tomber. Compétent et malin, il connaît bien d'autres ruses théorisées par les experts en management. Celui qui râle tout le temps a beaucoup de chances d'obtenir ce qu'il veut. Pour l'entreprise, autant se débarrasser du problème par le haut. Ne pas faire d'ombre à son supérieur est aussi une stratégie gagnante. Certains dirigeants redoutent les candidats trop brillants qui pourraient leur manger la laine sur le dos. Pour s'assurer de la loyauté de lieutenant Fallot, ils sont même prêts à les surpayer. Enfin, à défaut d'avoir du talent, jouer sur le réseautage, le copinage ou le diplôme est encore très efficace. Alice, ces mêmes experts vous diront quand même que les entreprises les plus performantes sont celles qui acceptent d'être bousculées par les meilleurs. Alors bien sûr, les compétences techniques ne suffisent pas. Mais plus les salariés ont le sentiment que leurs managers sont crédibles et capables de faire leur travail, plus leur niveau de satisfaction est élevé et moins ils ont envie d'aller voir ailleurs.
Oh, c'est un petit peu rassurant ça. Sandrine Foulon, Ma Vie au Boulot.